d'ouvrir une voie de partager la parole de Dieu avec vous, que soyons priés que ça se passe comme Dieu le veut.
Yeah.
On poursuit avec les alliances, c'est la dernière, c'est la huitième.
Yeah.
La huitième alliance qui est la nouvelle alliance. Yeah. Ça, on la retrouve dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » La nouvelle alliance est la dernière des huit grandes alliances mentionnées dans la Bible. Ses caractéristiques se distinguent et se démarquent des autres alliances. Étant donné que la dernière alliance est la huitième, et que l'on la retrouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, au chapitre 8 dans Hébreux, vous allez avoir la même chose que j'ai dit, pratiquement. Le chiffre 8 signifiant « nouvelle créature, nouvelle naissance », c'est sur ce point que j'entends cette étude de la huitième alliance sur une ère nouvelle. Et comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et avec cette huitième alliance, c'est vrai que toutes choses sont devenues nouvelles et que les alliances anciennes sont passées. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit justement dans le chapitre 8, verset 13, « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. » Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. La huitième alliance a apporté au peuple une ère nouvelle sur bien des points concernant leur vie. Et ses caractéristiques se distinguant des autres alliances font en sorte que Dieu l'a appelée nouvelle alliance. C'est pour ça que Dieu l'a appelée nouvelle, parce qu'elle se distingue de toutes les autres qu'il y a eues avant. Et ses caractéristiques sont les suivantes. Là, ça se peut qu'il y ait beaucoup de lectures, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui la distinguent des autres alliances. Et il y en a pu en avoir encore d'autres, mais à un moment donné, c'est pas les principales, que l'alliance, la huitième, celle de Christ, est vraiment parfaite en tout. Premièrement, elle est supérieure à l'alliance du Sinaï, à la fois sur le plan de la valeur morale et sur celui de son efficacité. L'alliance du Sinaï comportait une loi, les commandements, et des ordonnances qui constituaient le système religieux du peuple. Un représentant du peuple de la part de Dieu, le souverain sacrificateur, offrait dans les sacrifices prescrits par Dieu une possibilité d'expiation pour les péchés du peuple. Tout ce rituel se résumait par les œuvres de la loi, et celui qui les mettra en pratique vivra par elles, selon Lévitique 18:5. Nous savons aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, que la loi, les ordonnances et tous les sacrifices donnés pour le peuple d'Israël ont été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Car la loi n'était pas parfaite, ni les souverains sacrificateurs pour nous justifier devant Dieu. Ça prenait quelqu'un de parfait ayant accompli à la perfection la loi et toutes ses ordonnances et sacrifices, afin de nous faire grâce et de nous justifier par la foi en son nom. Et ce nom fut le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. C'est Christ qui est venu, qui a accompli toutes ces choses. Tous ces rituels-là qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance, Christ les a accomplis par son propre sacrifice. Et quelques versets pour résumer ce que je viens de lire, on voit dans Galates 3, verset 24, Paul nous dit, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Que la loi, les Anciennes Alliances, nous ont conduits à Christ. » Hébreux 10, verset 1 nous dit, En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Tout ce que les sacrificateurs faisaient comme sacrifice pour le peuple, ça ne pouvait pas amener le peuple à la perfection, parce que c'était toujours à recommencer.
Amen.
Justement, pourquoi? Parce que Romains 8, versets 3 et 4 nous dit, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Puis Paul rajoute dans Hébreux 7, verset 23, Paul, Luc, pas Hébreux, dans Hébreux 7, verset 23, nous dit, « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Il fallait toujours renouveler cet office. » C'est pour ça que ça prenait un souverain sacrificateur digne de ce nom. Un souverain sacrificateur parfait. Pas sujet à la faiblesse. Parce que l'homme est sujet à la faiblesse.
Amen.
Et ça, c'était l'ancienne alliance. La nouvelle, Christ accomplit ces choses. C'est pour ça qu'on peut avoir une assurance, une confiance dans cette alliance, parce que c'est Christ qui est notre souverain sacrificateur.
Amen.
Donc, Hébreux 7, verset 26 et 28 nous dit, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Voilà une caractéristique de la nouvelle alliance ayant plus de valeur et étant plus efficace que l'ancienne alliance du Sinaï. Déjà en partant, ça se compare même pas. Sous l'ancienne, il fallait faire des sacrifices. Il fallait que le sacrificateur offre pour le peuple des sacrifices perpétuellement. Et s'il mourait, il fallait amener un autre. Ça a toujours recommencé. Christ est venu une fois, il a accompli toutes ces choses. Il n'y a plus à mourir, il n'y a plus personne qui va mourir. Christ l'a fait une seule fois.
Amen.
Et voilà la nouvelle alliance. Est-ce qu'on part mieux que l'ancienne? Deuxièmement, elle est établie sur des promesses meilleures, c'est-à-dire inconditionnelles, sans aucune condition. Dans l'alliance du Sinaï, Dieu avait dit, « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, » on retrouve ça dans l'Exode 19, 5. C'était les conditions. Tandis que dans la nouvelle alliance, Dieu dit, « Je ferai, je pardonnerai. » C'est dans Hébreux 8, verset 10, 12. Ici, Dieu, dans la nouvelle alliance, s'implique lui-même pour l'homme, sans demander aucune condition. Quand Dieu dit, « Je ferai », Dieu a tout fait au travers de son Fils Jésus-Christ pour que cette nouvelle alliance soit parfaite et qu'elle soit inscrite dans nos cœurs et notre esprit. Puis quand il dit « Je pardonnerai », ce n'est qu'au travers du pardon de Dieu que nous pouvons voir la grandeur de cette alliance et toutes ses promesses qui s'y rattachent. Et ce pardon ne se retrouve que dans l'offrande parfaite du corps de Christ. Hébreux 10, verset 14 à 18 nous dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » C'est fini les offrandes.
Non.
Christ a payé le prix.
Amen.
C'est pour ça que la nouvelle alliance, ses caractéristiques sont, comment on peut dire ça, incommensurables comparativement à l'ancienne alliance. Parce que Dieu a tout fait. Et sans aucune condition. Il ne demande à rien à l'homme. Dieu a tout mis en place quand il dit je ferai. Dieu fait en sorte que cette alliance-là, il n'y a rien à y reprocher.
Mm-hmm.
Pour que l'homme puisse avoir accès à Dieu au travail de Christ.
Amen.
Au travers du pardon de Dieu envers l'homme, la plus grande promesse que celui-ci puisse acquérir, c'est la vie éternelle. Sans aucune offrande demandée de sa part, aucune condition, aucune œuvre de la loi, Christ étant l'offrande parfaite désignée pour lui. Ceci est une promesse bien meilleure que l'ancienne alliance. Troisièmement, sous le régime de l'alliance du Sinaï, L'obéissance résultait de la crainte. Sous celui de la nouvelle alliance, elle provient d'un cœur et d'un esprit bien disposé. Souvenez-vous, après qu'Adam et Ève eurent désobéi à la parole de Dieu, ayant pris du fruit de l'arbre défendu, comment que Adam a répondu à la voix de l'Éternel? Genèse 3, verset 9-10 nous dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam a eu peur parce qu'il a désobéi à la voix de l'Éternel. Il venait de pécher. Parce que la loi amenait la désobéissance à la loi ou à la parole de Dieu amenait une conséquence. Il fallait que, on va le voir tantôt, il fallait, en bonne expression, que tu marches les oreilles bien serrées. Parce que si tu désobéissais à la loi, il y avait un châtiment qui t'attendait. Je vais juste l'exemple que j'avais amené dans l'alliance pour la terre promise. Quand Akan a rentré dans la terre promise, il n'a pas aussitôt été rentré. Il a désobéi à la parole de Dieu. Il a pris quoi par interdit? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été lapidé, lui et toute sa maison, tout ce qui lui appartenait, lapidé et brûlé. C'était la conséquence d'avoir désobéi. Que moi, si moi j'avais eu ces lois, en ayant ces lois-là devant le peuple, tu t'essayes de marcher vraiment les fesses serrées, c'est une expression. Parce que tu as peur de désobéir et de subir le châtiment. La loi, c'est ça qu'elle dégageait, mais parce que l'homme ne la voyait pas comme Dieu voulait qu'elle soit perçue, parce que vous allez voir. Puis après, justement, l'alliance du Sinaï, quand le peuple a eu ordre de ne pas s'approcher de la montagne sainte, de peur d'être frappé de mort, le peuple a manifesté sa crainte face à l'obéissance de la parole de Dieu. Exode 20, verset 18-19, on y lit. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Le peuple avait peur de Dieu, parce que Dieu venait justement dire qu'il n'y ait personne qui s'approche de la montagne. Ça, c'était juste après les ordonnances de l'alliance au Sinaï. Dieu dit, approchez-vous pas de ma montagne sainte, qui était pour donner les 10 commandements à Moïse.
Amen.
Imaginez-vous les enfants ce jour-là avec les parents. Je suis convaincu que s'il y avait une mère de famille là, elle avait passé de ses deux mains et retenu. Parce qu'elle ne voulait pas qu'il approche.
Amen.
Dieu dit que personne ne doit approcher la montagne, même pas un animal, sinon il meurt. Que la mère, ce matin-là, là, les flous, elle bien serré pour qu'il approche. C'était une crainte, une peur. Pour ne pas subir le châtiment. Pourtant, l'alliance du Sinaï et les 10 commandements ont eu pour but de donner au peuple la crainte, non de Dieu uniquement, mais du péché et du mal afin de s'en détourner. Si Dieu a placé ces choses-là, c'est pour pas que tu commettes justement ces choses-là. Dieu voulait que tu aies la crainte du péché, du mal, plus que de lui. Parce que c'est ces choses-là qui vont t'éloigner de Dieu. C'est ces choses-là qui vont causer ta perte, le péché et le mal. Et le mot crainte, en hébreu, c'est zirach, qui veut dire respect. D'avoir un respect, une confiance respectueuse envers Dieu. C'est ce que Dieu veut que le peuple ait envers lui. Pas une peur, pas voir Dieu comme un méchant bonhomme, assis en haut, puis qui attend juste l'occasion de nous taper dessus parce qu'on est une faute. Parce que trop souvent, l'Église catholique le dépeint même.
Amen.
Parce que les femmes, à l'époque, il fallait qu'ils enfantent pour qu'ils soient sauvés, selon ce que l'Église catholique lui disait. Plus tu avais d'enfants, plus tu avais une chance d'être bon, parce que tu mettais en pratique, selon eux, la parole de Dieu. C'est par douleur d'enfantement qu'elle va devenir mère, et ainsi de suite. Ils ont changé ça tout croche. Mais ils inculquaient ces choses-là au peuple. Ils mettaient des fardeaux même trop lourds à porter au peuple.
Amen.
C'est pas cette crainte-là que Dieu voulait qu'on ait de lui, mais plutôt la crainte du mal, du péché.
Amen.
C'est de même qu'il faut apprendre à craindre Dieu, avoir une crainte respectueuse, et non avoir peur de lui comme d'un méchant bonhomme avec un bâton, prêt à fesser sur celui qui va pécher. Parce que Dieu a tout pourvu. Dieu a tout fait au travers de l'Alliance. Il a donné son Fils. Puis si tu fais de quoi, mais va à lui, il va te pardonner. C'est-tu avoir de la crainte, ça? S'il avait été méchant, il aurait frappé dessus, il n'aurait pas eu un médiateur. Il aurait-tu descendu, puis tard, c'est fini. Mais il y a eu un médiateur, là. Justement parce qu'il savait qu'on pécherait. Mais qu'à la lui, il va nous pardonner. Il n'y a pas de crainte envers l'autre. Au contraire, une assurance que Dieu a pourvu à ce que j'aie un avocat qui est fidèle et juste pour me pardonner.
Amen.
Puis après l'alliance du Sinaï, quand le peuple a eu ordre de ne pas se ramener. OK. Pourtant, l'alliance du Sinaï et les dix commandements ont eu pour but de donner au peuple la crainte, non de Dieu uniquement, mais du péché et du mal, afin de s'en détourner. C'est ça que Dieu veut qu'on ait aujourd'hui, cette crainte-là. La crainte face au péché, face au mal. Et non uniquement envers lui. Oui, il faut avoir une crainte envers Dieu, une crainte respectueuse. Pas une crainte en ayant peur de trembler parce que il nous surveille, puis si on fait la moindre chose, il va nous taper dessus. Dieu a tout mis devant nous. On sait comment marcher. Si on tombe, on a juste à aller à lui, par Christ, en prière, puis il va nous pardonner.
Mm-hmm.
Il faut que le mal, le péché, ça rend qu'on ait une crainte.
Mm-hmm.
Regardez justement le verset 20, Moïse a dit au peuple, dans Exode 20, verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Tu sais, le peuple avait peur de ce qu'il voyait en montagne. Et moi, j'ai dit, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. C'est pour ça, cette crainte-là. C'est afin qu'on ne pêche point. Qu'on se détourne du mal. Parce que on n'est pas parfait, si beau, bien sûr, dans un corps de chair. Et la chair ne veut rien savoir de Dieu. On va toujours tirer son bord, puis l'esprit va tirer sur l'autre. Que c'est sûr qu'on va tout le temps tomber, qu'on va déplaire à Dieu. C'est pour ça que Dieu tout met en place avec cette alliance. On peut s'aller à lui constamment, lui demander pardon, puis il va nous pardonner. D'avoir la crainte de l'Éternel, c'est d'avoir une confiance respectueuse envers lui face au péché et au mal qui nous entoure si facilement aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit à l'Église de Rome dans Romains 12, le verset 2, 9 et 21, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien.
Amen.
Verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il n'y a pas de crainte là à voir, là. Il y a une crainte face au mal pour pécher. Ça, on devrait craindre plus ça que l'Éternel Dieu. Ici, Paul nous démontre très bien que la crainte que l'on doit avoir est bien face au mal, au péché, et non envers Dieu uniquement. Dans l'ancienne alliance, celle du Sinaï, la crainte face à l'obéissance à la loi était omniprésente pour le peuple. Et devenait dur à supporter. Et les catholiques ont fait la même chose. Ça devenait dur à supporter pour le peuple. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, la crainte en a été bannie par l'amour parfait de Christ. Et cet amour est en nous aujourd'hui si nous avons confessé Christ comme notre sauveur. Selon ce que dit l'Écriture, 1 Jean 4, verset 15 à 18, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour.
Amen.
Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, ce que la loi émanait, dégageait. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte que la loi émanait, Christ l'a bannit. Celui qui craint aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas l'amour parfait de Christ en lui. Donc, il n'est pas sauvé. Et le jugement dernier lui est réservé. Et il m'explique. Il ne faut pas qu'on pense, parce que là, on a une crainte de Dieu respectueuse, que je ne suis pas sauvé, c'est pas ça que je dis. C'est que si tu n'as pas la crainte, comme on vient de parler ici, c'est que tu n'as pas l'amour parfait de Christ en toi. L'amour parfait, c'est Christ. Parce que moi, je ne suis pas parfait.
Amen.
L'amour parfait, là, l'amour de Dieu, c'est Christ.
Amen.
Cet amour-là est en nous parce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur.
Amen. Amen.
Donc, cet amour-là qui est en moi me donne l'assurance qu'au jour du jugement, je n'ai pas à craindre. Parce qu'on parle bien ici dans Jean, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
Amen.
Je n'ai pas à craindre le jugement. Parce que l'amour parfait est en moi.
Amen.
Celui qui craint, c'est parce que l'amour parfait de Christ n'est pas en lui. Et le jugement lui est réservé. Et si je prends, si je me conforte au commencement, quand, avant d'arriver pour le Seigneur, quand j'ai été témoigné, ben, on m'a emmené le paradis, on m'a emmené l'enfer. Je ne voulais pas aller en enfer.
Amen.
J'avais peur, j'avais une crainte. Parce que l'amour parfait n'était pas en moi.
Mm-hmm.
Dieu m'a sauvé. J'ai plus cette crainte.
Oui,
au contraire, j'ai une assurance.
Amen.
Que moi, tout le bord, mais que Christ vienne.
Amen.
Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. L'amour parfait de Christ a banni cette crainte-là. La crainte que la loi est bannée. Que je peux marcher en simplicité de cœur pour plaire à Dieu, en étant obéissant à sa parole. C'est tout ce que Dieu me demande. Je n'ai pas à lui craindre comme le peuple pouvait le craindre en désobéissant. Ayez une crainte respectueuse, une confiance respectueuse envers Dieu. C'est ce que Dieu demande.
Amen.
Mais plutôt, ayez le mal et le péché en horreur.
Amen.
Craignez ça plutôt.
Amen.
Réforcez-vous de marcher droit pour plaire à Dieu en vous détournant de ces choses-là.
Amen.
C'est là que Dieu va vous bénir et va vous montrer des choses. Parce qu'on va faire l'effort de plaire à lui.
Amen.
Pour nous qui sommes sauvés aujourd'hui, qui avons l'amour parfait en nous, un amour dont Christ nous a donné au travers de la Nouvelle Alliance, nous devons avoir en retour un respect envers Dieu, envers celui qui a tout fait pour le salut de l'homme, sans y mettre aucune condition, mais de craindre plutôt le péché et le mal, afin de s'en détourner. Soyons obéissants à la parole de Dieu, ayant un cœur et un esprit bien disposés à sa parole, et veillons sur nous-mêmes, car Christ a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est dans Matthieu 27, verset 41. Il faut veiller constamment sur notre propre corps, notre propre vie, parce qu'on est de chair. Et ce qui est de chair, ben, le péché s'attaque à ça. Et Dieu, c'est ça qu'il veut qu'on aille en horreur. C'est ça qu'il veut qu'on craigne. Que tant et aussi longtemps qu'on veille là-dessus, qu'on fait l'effort de s'en éloigner et de plaire à Dieu, mais Dieu va nous bénir, Dieu va nous aider dans notre marche. Mais si on se laisse gagner par le mal, on va s'éloigner. Et le péché, le mal, va avoir gain de cause sur nous. Et c'est de même qu'on abandonne, c'est de même qu'on quitte. Quatrièmement, elle assure la Nouvelle Alliance, à chaque croyant, la révélation personnelle du Seigneur. Si on la voit dans Hébreux 8, verset 11, dans la Nouvelle Alliance, c'est écrit, « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Comment? Romains 8, verset 16 nous dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit que Dieu nous a donné, qui nous a scellés quand on a accepté Christ comme notre sauveur, cet Esprit-là nous révèle les choses de Dieu, nous révèle Christ au travers de sa parole. C'est de même que la Nouvelle Alliance fait en sorte qu'on peut voir Christ partout au travers de la parole de Dieu. Ce que l'Ancienne ne faisait pas. Parce que l'Ancienne, dites-vous une chose, que le sacrificateur qui obéissait à la parole de Dieu, qui faisait tout selon ce que la loi demandait, pour les sacrifices, les offrandes, et ainsi de suite, lui, il faisait selon ce que Dieu lui a demandé. Il ne savait pas, lui, que ça représentait tout Christ à faire. Nous, avec l'Esprit de Dieu aujourd'hui, on peut voir ces choses-là. Que ce que la loi faisait, c'était pour nous conduire à Christ. Ça nous révélait. Ça n'était qu'une ombre des choses à venir. Et la perfection, c'est Christ. Au travers de toutes ces choses-là, on peut voir Christ aujourd'hui, à cause de l'Esprit qui est en nous. C'est une caractéristique de la Nouvelle Alliance formidable. Parce que par cette caractéristique-là, par cet Esprit-là que Dieu nous a donné, bien, tu découvres Christ partout dans la parole de Dieu.
Amen.
Christ est partout, il est dans toutes les alliances, il est dans la loi, il est dans tout. Si tu prends le temps de le voir, de l'étudier, tu vas le voir, Christ est là. Il est dans les arbres, il est dans les animaux, et dans les rochers, et partout.
Amen.
Mais ça, c'est l'Esprit qui va te le dévoiler, Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Paul dit dans Colossiens 1, versets 26 et 27, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Ça nous est révélé, frères et sœurs, ce mystère-là. « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et Colossiens 2, verset 3 dit, « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » En Christ, tout est caché. Mais c'est tout dévoilé pour nous aujourd'hui, pour les enfants de Dieu, au travers de son esprit. C'est une merveilleuse caractéristique de la nouvelle alliance. C'est pas à comparer avec l'ancienne. La nouvelle alliance a permis de me faire révéler Christ et de mettre en lumière ce qui n'était qu'une ombre à venir, savoir le ministère de Jésus-Christ. Une autre grande promesse de la nouvelle alliance qui est bien plus efficace que l'ancienne. Cinquièmement, elle garantit l'oubli complet des péchés. Quand Dieu dit « Je ferai, je pardonnerai », Hébreux 8, verset 12, Dieu dit, « Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. » C'est ça la garantie de Dieu dans la Nouvelle Alliance, son pardon et l'oubli pour les péchés. Dans l'Ancienne Alliance, le souvenir des péchés était renouvelé chaque année. Hébreux 10, verset 1 à 3, on y lit, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Les sacrifices étaient toujours à recommencer pour le pardon des péchés parce que ça les effaçait sa peau. Pas besoin d'oublier, tu repêches, là, tu commences tout le processus. Donc, ça l'efface pas. Ça l'efface pas tes péchés, à tout jamais. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, le sacrifice a été payé par Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 5 à 7, on y lit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Christ s'est offert lui-même, Christ s'est donné lui-même pour nous, pour le sacrifice. Et son sacrifice est parfait. On a pu, comme les sacrificateurs, d'en présenter un chaque année pour les péchés de chacun du peuple. Le sacrifice de Christ a supprimé les sacrifices de l'ancienne alliance afin d'en établir une nouvelle au travers de son offrande, c'est-à-dire de sa chair. C'est pour cela que le pardon de Dieu est accessible à l'homme aujourd'hui, et bien plus pour nous, enfants de Dieu, qui avons reçu ce pardon. Dieu nous demande d'aller à lui constamment pour nos fautes futures, afin de nous les pardonner à nouveau, car il est écrit dans 1 Jean 2, versets 1 et 2, « Mes petits-enfants, je vous tiens. » Mes petits-enfants, on doit-tu craindre? Tu sais, méchamment, le bonhomme avec son bâton. Il nous parle ici, mes petits-enfants. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'on n'a pas à craindre. On n'a pas à avoir cette crainte-là, mais au contraire, on peut rendre gloire à Dieu d'avoir pourvu un médiateur. D'avoir pourvu à ce qu'on ait un avocat auprès de lui. Parce que, je ne sais pas si vous étiez tout comme moi quand j'ai accepté Christ comme mon sauveur, mais quand j'ai accepté Christ, moi, là, comme le chef Luc le dit, tout est nouveau.
Amen.
C'est vrai qu'on est sur un air nouvel. Tout ce qu'on a fait avant, on aimait plus ça, mais on passe une nouvelle vie. Mais là, vous me voyez à parfait. Hey! 17 ans, beau bonhomme. Une perfection même. Non, mais tu sais, le voyant que... Je vais glisser ça, là. Non, mais je me voyais, honnêtement, je me voyais parfait. Tu sais, je me voyais que je ne pêchais plus. Jusqu'à temps que je pêche. Ça n'a pas été long. Que là, je me suis dit, il y a de quoi qui ne marche plus. Je suis sauvé, il y a des doutes, puis toute la kit. Parce que là, oui, non, c'est tout nouveau. Je suis sacré. Dieu m'a coupé ça, tu sais, drette là. Je buvais pas à lui, mais quand même, je prenais un vin de temps en temps. Plouf, Dieu m'a enlevé tout ça. Alors, essaye de jouer. La perfection, tu sais, j'ai plus ça. Alors, mais l'affaire est encore là. Les convoitises sont encore là. Les mauvaises pensées sont encore là. Et quand tu réalises ces choses-là, puis tu perds encore, là, oh, pose des questions. Qu'est-ce qui arrive? Jusqu'à temps que Dieu, au travers de sa parole, me démontre que je suis encore un pécheur. Mais un pécheur pardonné. Et que Dieu, justement, comme on vient de dire, mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, c'est à mon cas, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les noms, mais aussi pour ceux du monde entier.
Amen.
Quand j'ai compris ça, oh, ben, c'est vrai que c'est un soulagement. C'est vrai que quand Christ dit, mon joug est doux et léger. Ah! Ça va-tu? Ça fait-tu du bien d'aller à la prière et d'y demander pardon quand t'as fait de quoi de pas correct?
Mm-hmm.
Tu te relèves là, puis il me semble que t'en as moins ses épaules. Mais avant de réaliser tout ça, tu sais, il faut un cheminement. Mais il faut que tu restes attaché à la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit uniquement ton guide. Il faut qu'elle soit ta nourriture. Il faut que tu aies soif, tu aies faim de ces choses-là pour pouvoir comprendre. Dieu va te les donner. Mais si t'as pas soif de ces choses-là, si t'es pas présent dans tes assemblées, comment tu veux que Dieu te donne ces petites choses-là pour les agrandir? Ça les prend, ces choses-là. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Une autre grande caractéristique de la Nouvelle Alliance mieux que l'ancienne, tu comprends? Savoir que Dieu peut pardonner mes péchés en tout temps, c'est formidable. Sixièmement, la Nouvelle Alliance repose sur une rédemption déjà accomplie, signée par le détenteur et ayant comme garantie l'éternité. Le mot « rédemption » signifie « rachat, libération par le paiement d'une rançon ». Et Christ confirme ces choses dans Matthieu 26, versets 27 et 28. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour le pardon des péchés. Christ, de son vivant, a pris la peine de donner cette assurance-là, ce contrôle-là, cette garantie-là aux disciples ou à l'Église. Comme quoi que son sang pour être versé, il est versé pour la rédemption, pour le pardon des péchés de tout le monde. Christ, de son vivant, donne cette garantie ou assurance aux disciples ou l'Église que son sang est le sang de la Nouvelle Alliance. Sa signature, répandue pour plusieurs pour le pardon des péchés. Pour me donner un exemple, une garantie ou une assurance pour nos biens personnels. On a tous ça, la plupart. On a une garantie pour notre auto. On a une garantie pour notre maison.
Amen.
On a une garantie pour nos meubles.
Amen.
Et ces garanties-là sont signées du représentant qui t'a vendu cette assurance-là, n'est-ce pas?
Amen.
Et tu as pris cette garantie-là ou cette assurance-là au cas où, que soit que tu passes au feu ou que tu te fasses voler. Si ces choses-là t'arrivent, l'assurance rentre en vigueur et tu reçois les biens que l'assurance peut te donner selon le plan de l'assurance que tu avais. Christ, lui, en plus de l'avoir signé, il l'a payé aussi. Avec son propre sang, afin que l'homme ne soit redevable en rien envers Dieu. Et la garantie qu'elle procure, c'est une rédemption éternelle ici-bas et de l'autre bord. Parce que dites-vous une chose, frères et sœurs, en acceptant Christ comme mon sauveur, Christ, la Nouvelle Alliance, est déjà signée de son sang. Moi, j'accepte Christ comme mon sauveur. J'accepte ses convenances. J'accepte sa parole. J'accepte Christ. N'est-ce pas que j'arrive de l'autre bord? Où je vous le dis, parce qu'il y en a. Au jour du jugement, je n'aurai pas à craindre pour ma garantie, mon assurance, sur ma vie. Car un livre sera ouvert et mon nom sera inscrit dedans.
Amen.
Et mon représentant, Christ, l'aura signé de son sang.
Amen. Amen.
J'ai déjà cette garantie, cette assurance, ici-bas, étant sauvé. Il ne reste plus qu'à entre en vigueur. Et pour ce jour, comme dit Jean Charest, je suis prêt. Je ne sais pas si lui il est, mais... La rédemption de Christ pour nos fautes, une autre grande caractéristique de la Nouvelle Alliance. Tu sais, notre garantie, notre assurance qu'on a ici-bas, ben, on n'a pas à craindre. On a au contraire une assurance fiable là-dessus. Parce que Christ l'a déjà signé de son sang ici-bas, on a une preuve devant ses disciples. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Mm-hmm. Et quand Christ a été offert en sacrifice sur la croix, le sang qui a coulé n'est accompli toute chose. Donc, cette garantie-là, cette assurance-là, a été signée par Christ. Mm-hmm. Et moi, quand je l'ai accepté comme sauveur, il l'a mis dans son livre de vie. Qu'à côté de mon nom, il y a Christ qui a signé.
Mm-hmm.
Que m'avoir droit à mes biens dans l'autre bord. Parce que la garantie, c'est ça.
Mm-hmm.
Mes biens, c'est la vie éternelle. On ne peut pas avoir plus de biens que ça, que de la vie éternelle. Puis on peut rendre gloire à Dieu pour la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance a apporté beaucoup. Et là, on ne réalisera jamais la grandeur de cette alliance-là.
Amen.
Parce qu'on n'a tout plus dans le bec. T'sais, on n'a tout plus dans le bec aujourd'hui. On accepte Christ comme notre sauveur. On est sauvé. On s'efforce, j'espère, de marcher pour lui, de lui plaire. Mais on n'a pas connu ce qui était la loi. Gloire à Dieu.
Amen.
On prend comme acquis, on ne prend pas le temps d'apprécier tout ce travail qui a été fait dans cette 8e alliance-là pour que l'homme puisse avoir une réconciliation avec Dieu. Le but de tout ça, c'est que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Mais beaucoup a été donné. Beaucoup a été versé. Beaucoup a été payé. Mais il est peu qui est donné en retour. T'sais, Dieu demande un effort de chacun, et on doit faire cet effort-là pour lui plaire, pour marcher dans ses voies, pour être un exemple pour ceux qui nous entourent. Aller voir ceux qui sont perdus, pour lui montrer ce que c'est la 8e alliance, la nouvelle alliance, ce qu'elle peut faire dans sa vie. Peut lui donner la vie éternelle. C'est de lui montrer ces choses-là pour en amener le plus grand nombre. Bon, arrive au septièmement. La nouvelle alliance garantit l'existence éternelle, la conversion future et la bénédiction d'Israël, qui, lorsqu'il se repentira, ratifiera cette alliance ou confirmera ce qui a été promis. Parce que, oubliez que les alliances, c'était pour Israël. Israël s'en est détourné. Dieu s'est tourné vers les païens au travers de la 8e alliance. Mais la 8e alliance concerne encore Israël. Dieu, au travers des anciennes alliances, avait fait de grandes promesses pour Israël. Par exemple, un sauveur né de la postérité de la femme, une promesse que la terre ne serait plus détruite par les eaux du déluge, et la preuve en est le signe de l'arc-en-ciel dans la nuit, signe entre Dieu et les hommes. Une postérité et une nation perpétuelle, une maison et un règne assuré et un trône qui sera toujours affermi, avec l'alliance de David. Nous savons qu'Israël n'a pas respecté ni observé certaines de ses alliances, et à cause de leur désobéissance, Dieu les a retranchés de l'olivier franc, mais lorsqu'ils reconnaîtront Christ, le Fils de Dieu, et se repentiront, Dieu les guérira de nouveau sur leur propre vie. Et ainsi, les promesses faites à leur père, à leur égard, par ces anciennes alliances, seront accomplies. Car Christ est le fondement de chacune de ces alliances, et sa venue ici-bas a fait en sorte d'accomplir ses promesses par une alliance meilleure. Zacharie 12, verset 10 nous dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Israël et Mamé vont réaliser que celui qui est venu, Christ, c'était vraiment le Fils de Dieu. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Puis ils vont se repentir à ce moment-là. Zacharie 13, versets 1 et 9. Le verset 1 et le verset 9. « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Le verset 9. « Je mettrai ce tiers, le reste d'Israël. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. À ce moment-là, Israël, le reste d'Israël, va être sauvé, va revenir à Dieu. Et là, les alliances vont rentrer en vigueur pour eux. Les promesses que Dieu a faites au travers d'Abraham, au travers de David, au travers de ces alliances-là, ben, Israël vont s'accomplir à ce moment-là. Dieu demeure fidèle à ses promesses pour Israël et la nouvelle alliance en témoigne. Dans Romains 11, versets 27 à 29, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Israël est ennemi de Dieu à cause de nous aujourd'hui. Parce qu'Israël s'est endurci et s'est détourné de la parole de Dieu. Et le salut est offert à nous pour provoquer une jalousie sur eux que la parole de Dieu nous dit. Et ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, les promesses, ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, David, Jacob, et ainsi de suite. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu, ce qu'il avait promis à Abraham, ce qu'il a promis à David, il l'a accompli avec la 8e alliance. Il l'a accompli pour le reste d'Israël aussi. Dieu ne pouvait pas se dédier dans ce qu'il a dit. Ce que Dieu a promis, il en a le pouvoir de l'accomplir aussi. Une autre grande caractéristique de la nouvelle alliance, les promesses de Dieu accomplies. La nouvelle alliance, qui est la 8e, vient accomplir les anciennes alliances, vient faire un tout avec chacune d'elles. Comme je l'ai dit tantôt, ce qui était la loi, c'est un nombre des choses à venir, nous parle de Christ. Toutes ces choses-là nous témoignent Christ aujourd'hui. Donc, la nouvelle alliance qui est la 8e vient accomplir les anciennes alliances, vient faire un tout avec chacune d'elles, n'en former qu'une seule, la nouvelle alliance. Si je regarde le chiffre 8, que dois-je voir? Là, si vous n'avez pas des yeux, mais vous le ferez chez vous le dessin. Regardez le chiffre 8. Ça, c'est la nouvelle alliance et la 8e. L'ancienne alliance, mais ce n'est pas une alliance, c'est rond. Une alliance, on a deux qui se marient, là. On n'a qu'une alliance, mais on forme un coup marié. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ils se touchent, ils s'entrecroisent. Unis par Christ. Christ, il nous accomplit la loi, il nous accomplit les anciennes alliances par la nouvelle, qui est la 8e, le chiffre 8. C'est pour ça que le chiffre 8 qui signifie nouvelle naissance, nouvelle créature, la nouvelle alliance a amené une ère nouvelle. De quoi de nouveau pour le peuple, pour le monde? Que Dieu ne demande aucune condition pour l'homme, pour son salut. Tu n'as plus rien à faire pour le salut. Dieu, il a dit, je ferai, Dieu a fait. Et Dieu dit, je pardonnerai, Dieu pardonne. Il faut seulement que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Crois ce que la parole de Dieu dit. Crois son salut. Et tu auras cette assurance-là. Tu n'auras plus à craindre le jour du jugement. Tu n'auras plus à voir Dieu, un méchant bonhomme avec un bâton, qui est prêt à fesser sur quiconque pêche, comme l'ancienne religion nous l'a dépeint. Au contraire, de le voir comme un père qui aime ses enfants. Et il les aime assez qu'il a donné son fils. Et il les aime assez qu'il est prêt à nous pardonner. Si on va à lui, qu'on demande pardon. Il veut juste qu'on ait le mal et le péché en horreur. Qu'on ait la crainte de ces choses-là. Qu'on s'éloigne de ça pour qu'on s'efforce de lui plaire. C'est tout ce que Dieu nous demande. L'ancienne alliance unit la nouvelle alliance pour n'en former qu'une seule, la 8e alliance. L'union fait la force, comme on dit, n'est-ce pas? Et Dieu a tout uni par Christ au travers de la nouvelle alliance. Soit promesse, sacrifice, pardon des péchés et rédemption éternelle. Voilà la plus grande caractéristique de la nouvelle alliance, l'unité parfaite de Christ. Paul dit dans Romains 11, verset 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Admirons la sagesse de Dieu au travers de la nouvelle alliance et ayons une confiance respectueuse envers lui. Car Dieu a tout fait pour l'homme perdu dans cette alliance.